8h07 RMC pour retrouver tout de suite Jean-Jacques Bourdin.
66 ans, je dis bien 66 ans après la nationalisation, les petits-enfants de Louis Renault attaquent l'État en justice pour contester cette nationalisation-sanction de Renault en 1945 et obtenir réparation. Dans un instant, Hélène Renault d'Ingly, l'une des petites filles de Louis Renault, sera en direct avec nous. Il est 8h08, vous êtes sur RMC. Les acteurs de l'actualité sont sur RMC le matin. À tout de suite.
RMC, Jean-Jacques Bourdin.
Constitutionnellement, est-ce que l'État devait nationaliser Renault il y a 66 ans? Hélène Renault d'Ingly, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le 9 mai, lundi dernier, sept héritiers de Renault, dont vous, ont déposé une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester la légalité de la nationalisation de Renault en 1945. Pourquoi estimez-vous que l'ordonnance de nationalisation est inconstitutionnelle?
C'est inconstitutionnel parce qu'elle bafoue les principes républicains et bafoue la Constitution. Mon grand-père est décédé avant jugement, or ses biens ont été confisqués après sa mort.
Oui.
Et je voulais revenir sur quelque chose que je viens d'entendre sur votre radio ce matin.
Oui.
Je voudrais répondre à Madame Annie Lacroix-Rive qui a fait des erreurs grossières.
On va en parler, oui.
D'accord.
On va en parler, oui. Certains historiens disent que Louis Renault et toute l'équipe de direction de Renault à l'époque, que toute l'équipe a collaboré avec les Allemands. Et notamment, alors, on rappelle qu'une photo de Louis Renault entouré d'Hitler et Göring au salon de l'auto de Berlin de 1939, on a d'ailleurs exposé cette photo. On parle de Louis Renault qui a financé les croix de feu du colonel de la Roque, puis la cagoule. Il prôna l'entente franco-allemande entre gens de bonne volonté, Hitler en tête. Il a même déclaré une guerre économique entre la France et l'Allemagne n'aurait d'avantage que pour l'Angleterre et l'Amérique. Et paraît-il, ça a été confirmé. Renault a travaillé pour la Wehrmacht.
Alors, je vais vous répondre en trois points.
Oui, allez-y.
Alors, je vais vous dire d'abord, les usines Renault, il y a une saisie provisoire des usines Renault dès le 18 juin 1940. Cette saisie est prononcée, donc, et l'usine se trouve donc sous le contrôle direct des Allemands, le prince von Urach, Schippers et Vischer. Renault fait partie de la cinquantaine d'entreprises sur des milliers d'entreprises françaises qui étaient sous le contrôle direct des Allemands. Ça, c'est une chose. Et le 1er septembre 1940, la réquisition est définitive. L'ordonnance de non-lieu de 1945 fait état de cette contrainte. C'est donc une contrainte. Deuxième chose, j'ai entendu la production. On a souvent dit, j'entends dire encore que Louis Renault a produit des chars pour la Wehrmacht, ce qui est complètement faux. Il n'a jamais produit aucun char, ni bombes incendiaires, ni quoi que ce soit.
Il a produit des pièces. Construites par Renault pour le Reich.
Oui. Chaque pièce qui sortait de l'usine était sous le contrôle direct des Allemands. Faut bien voir que l'usine à ce moment-là n'est pas dirigée par Louis Renault et par René de Percave, qui a lui-même d'ailleurs obtenu un non-lieu en 1949. Quant à la production de chars, il y a des chars exposés exposés en URSS ont été construits par la France avant l'occupation et ils ont été saisis par la Wehrmacht pendant la défaite de 1940. Alors en ce qui concerne le financement de croix de feu, de la cagoule, tout ça est absolument faux. Louis Renault a condamné par écrit dès 1937 les révolutions fascistes. Alors tout ça fait partie d'erreurs grossières qui sont encore diffusées aujourd'hui et qui font plus partie de la manipulation qu'autre chose.
Mais est-il vrai qu'il a, en 1939, rencontré Hitler et Göring, qu'une photo a été prise au salon de l'auto de Berlin?
Au salon automobile de Berlin en février 1939. Oui. À l'époque, la France n'est pas en guerre. Il y a encore d'ailleurs des émissaires du gouvernement qui sont à Berlin. Et à partir de cette photo, on a manipulé. C'est une manipulation des faits.
Bien. On va pas reconstruire et refaire l'histoire ici. Nous ne sommes pas historiens.
Oui. Quand j'entends dire qu'il n'y avait aucune contrainte, l'ordonnance de 45 fait état de cette contrainte. Il y a trois commissaires allemands. J'insiste bien là-dessus parce que c'est très important. Et je crois que Madame Annie Lacroix-Rive devrait vraiment se pencher sérieusement, plutôt que de faire de l'idéologie, se pencher sur les usines Renault et ce qu'elles ont fait pendant la guerre.
Bien. Pourquoi est-ce que vous voulez réhabiliter la mémoire de votre grand-père?
Parce que depuis 66 ans. J'entends dire que Louis Renault est un collaborateur, ce qui est complètement faux. Cette histoire est un véritable scandale. C'était en réalité un bouc émissaire et ça continue, ces mensonges continuent à être diffusés.
Bien. Vous voulez quoi? Au-delà de la réhabilitation, vous voulez quoi? Réparation financière?
Pardon?
Réparation, c'est-à-dire?
Déjà dans un premier temps, une réhabilitation morale, qu'il n'y ait plus dans les livres d'histoire cette légende noire de Louis Renault, qui est complètement fausse, je viens de vous la démontrer en trois points essentiels. Et deuxième chose, des indemnités, ce qui est normal par rapport au préjudice matériel et moral que ma famille a subi.
Indemnité, c'est-à-dire vous voulez récupérer les usines Renault?
Non. Certainement pas. D'ailleurs, bon. C'est ce qu'on dit souvent, une nationalisation à la libération, pourquoi pas? Et ça faisait partie d'un nouvel ordre économique, pourquoi pas? Mais pas au prix du déshonneur de cet homme qui a œuvré toute sa vie pour doter la France d'un outil industriel remarquable.
Je vais être encore plus direct. C'est la réhabilitation de votre grand-père qui vous occupe ou c'est obtenir de l'argent?
La première chose, c'est pour ça qu'on se bat depuis 15 ans, on se bat pour avoir un débat public, pour qu'enfin la vérité soit diffusée, que tous les Français le sachent, qu'ils soient fiers de ce nom. Quant à l'argent, c'est complètement secondaire, mais puisqu'on nous a obligés à monter, à saisir la justice, à ce moment-là, il est tout à fait normal, comme la vérité n'éclate pas, que nous demandions des indemnités. C'est un préjudice important que la famille a subi.
À combien l'estimez-vous, ce préjudice?
À chiffrer, des experts seront commis, j'imagine, pour faire une estimation. Mais dans un premier temps, déjà, je suis satisfaite de voir qu'enfin nous pouvons nous exprimer et dire à quel point cette histoire est un véritable scandale.
Merci Hélène Renaud d'Anglais, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mais 8h15, merci, au revoir. On ouvre une vraie page d'histoire, c'est très très intéressant, hein. Vraiment très intéressant.